conférence. Nous sommes dans le cadre de l'espace des métiers et nous allons aborder aujourd'hui les métiers du son. Nous avons fait le choix de cette proposition parce que ça nous paraît aussi être une demande assez récurrente de personnes, plutôt jeunes généralement, qui nous demandent un petit peu comment ça se passe par rapport au métier du son pour apprendre, connaître les filières. Des gens qui généralement viennent à ce métier, généralement par le goût de la musique, l'envie de faire de la musique, pour découvrir très rapidement les nécessités de connaissances à la fois scientifiques, techniques, pour connaître à la fois ce qu'est le son, ce qu'est la prise de son, ce qu'est le mixage, et toutes les filières qui existent actuellement en France et en Europe d'ailleurs. Donc pour répondre aux multiples questions que peuvent vous pouvez vous poser et peuvent se poser les gens qui sont attirés par ces métiers, nous avons fait appel à Mick Martin, qui lui travaille plus sur les aspects, on va dire, plateau, spectacle vivant, puisqu'il est régisseur au théâtre de Poitiers. Et pour la partie, on va dire, enseignement et filière d'enseignement liée au son, nous avons fait appel à François Serre, qui est présent ici, et qui va donc vous expliquer un petit peu comment s'organise, en l'occurrence au LISA, le lycée de l'image et du son d'Angoulême, comment s'organisent les filières et comment les choix pédagogiques sont orientés pour permettre de mettre sur le terrain, sur le marché de l'emploi, des techniciens du son, même plus que des techniciens du son, puisque c'est un BTS, un brevet de technicien son, avec des compétences dont François va un peu nous dépeindre toutes les possibilités et l'envergure de ce diplôme. Donc on va peut-être commencer, moi je vais poser une première question à vous deux. Comment vous êtes venu au son? Qu'est-ce qui vous a emmené? Alors là on va remonter, mais comment ça s'est passé, votre première approche au niveau du son? Peut-être commencer par Mick, non?
Oui. Je pense ça. Oui, son, comment ça marche?
Alors, bonsoir, moi, Mick Martin, donc je suis régisseur son au Théâtre National de Poitiers. Alors, comment je suis arrivé au son? Par la guitare électrique. C'est-à-dire, je suis plutôt musicien au départ. Et musicien, j'ai commencé à enregistrer des maquettes avec les différents groupes avec lesquels j'ai joué. Et je m'intéressais en fait pratiquement autant au magnétophone, au micro, etc., au branchement, autant qu'à la guitare. Et après avoir rencontré un ingénieur du son à Paris, je suis devenu son assistant. Et j'ai donc commencé comme technicien dans des studios d'enregistrement. Et etc., etc. Bon, je suis arrivé et maintenant je suis régisseur son. Mais c'est surtout par la musique, par la guitare en fait, voilà, dont je joue toujours.
Même chose, voilà. Sauf que c'était la trompette, voilà. Et puis j'ai commencé à m'enregistrer. Et puis moi, j'ai fait partie des gens qui ont participé à l'élan des radios libres à une certaine époque, et sur Poitiers en plus. Et puis voilà, la passion est née là. Et puis après, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que ma vie, maintenant, je ne vais pas travailler. J'ai le plaisir d'aller enseigner ma passion, voilà.
C'était la question pour voir les portes d'entrée, comment ça se passe, ou ça se passait peut-être, je ne sais pas. Parce que j'ai vu une petite phrase, on nous a présenté un document, je pense que certains d'entre vous l'ont eu, on le fera tourner. Apparemment, la formation maintenant ne se fait plus sur le tas. C'est vrai qu'il y a eu une période où dans la musique, beaucoup de gens, à une certaine époque, apprenaient sur le terrain. Alors moi, je me retourne vers vous. Est-ce qu'on peut apprendre encore en rentrant directement et en côtoyant des gens qui font du son? Ou est-ce que la formation, maintenant, est devenue la voie... Là, je vais peut-être me retourner vers François. Est-ce que c'est devenu la voie incontournable? Et pourquoi?
Alors, pour faire suite à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, voilà, on a pu dire d'où venait notre passion. Moi, d'un autre côté, j'ai fait des études scientifiques qui m'ont permis d'appréhender le métier d'une autre manière. Je ne considère pas que j'ai appris sur le tas. Okay. J'ai eu un niveau d'études scientifiques qui m'a permis et un niveau d'études culturelles qui m'ont permis de me faire ma place dans ce métier-là. Et je dirais que depuis 10 allez, 20 ans, voire 10 ans, les formations se stabilisent et se mettent en place. On a des filières mises en place par l'éducation nationale qui représentent une réalité du marché. Je reviendrai après sur cette réalité du marché. Et qui, de toute façon, à l'heure actuelle, je ne pense pas plus possible effectivement de rentrer comme ça dans ces métiers-là sur le tas. Voilà, par la formation sur le tas. Il reste des exceptions, mais ce n'est pas la grande majorité.
Mick ?
Moi, je suis plutôt atypique dans la mesure où j'ai mal commencé par un bac littéraire, pour un petit peu poursuivre ce que tu dis. Et ensuite, j'ai fait une licence de sociologie. Là, vous voyez, effectivement, rien ne m'amenait véritablement à la technique, etc. Alors moi, effectivement, je fais partie de ceux qui ont appris sur le tas, pas forcément sur le tard, hein, mais sur le tas en tout cas. Et après, bien sûr, j'ai pu étayer tout au long de ces années des formations qui sont venues, heureusement, un petit peu étayer tout cet apprentissage sur le terrain. Mais je suis bien d'accord que maintenant, on peut faire autrement. C'est-à-dire commencer par véritablement une formation, puis ensuite aller le plus rapidement possible sur le terrain. Voilà.
Alors, puisqu'on est dans les formations, je vais en profiter pour demander à François, puisque le lycée de l'image et du son est un lieu référent dans le Poitou-Charentes pour apprendre les métiers du son, pas seulement du son d'ailleurs, peut-être que tu vas nous expliquer ce qu'est le LISA, puisqu'il y a son, audiovisuel, enfin c'est quelque chose quand même... Donc que tu puisses nous expliquer un petit peu ce qu'est LISA d'abord, et puis après la filière dont tu t'occupes autour des métiers du son, voir comment tout s'organise et expliquer donc à notre auditoire comment on rentre dans ce genre de filière et quand on ressort, qu'est-ce qui se passe.
Alors, le lycée de l'image du son est un lycée tout à fait classique, hein, sur lequel vient se greffer deux BTS, un BTS de communication visuelle et un BTS audiovisuel. Les BTS audiovisuels ont été mis en place à partir des années 90 à la demande des chaînes de télévision. Tous les 5 ans, nous avons une remise en forme du référentiel, c'est-à-dire que nous rencontrons tous les 5 ans les professionnels qui nous mettent en place un nouveau cahier des charges tous les 5 ans pour former des étudiants. Ça, ce n'est pas spécifique à ce BTS-là. Hein. Toutes les formations techniques ont généralement une reformulation de leur référentiel sur une période relativement courte dès qu'on est dans les formations techniques. Ce qui fait que notre diplôme est normalement mis à jour assez régulièrement par les professionnels. Donc la pensée du BTS, hein, de ce BTS audiovisuel, fait que normalement au centre on a un réalisateur et ce réalisateur est secondé par des métiers différents afin d'obtenir une production audiovisuelle. Donc là, on va retrouver les métiers de l'administration, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de toute la production. Je vais donner des exemples, les autorisations de tournage, la mise en route les plannings, les feuilles de paye. Ensuite, vous avez les gens du cadre. On ne va pas simplement s'arrêter aux gens du cadre, on va dire les gens de l'image, c'est-à-dire ceux qui sont capables de mettre en place de la lumière, qui sont capables de concevoir ce qui est représenté dans le cadre, et donc aussi de faire du cadrage, c'est-à-dire prendre une caméra. Ensuite, vous avez les gens du montage, les gens du son, bien sûr, on est là pour ça. Et vous avez les gens de l'ingénierie, c'est-à-dire tous ceux qui installent les systèmes et qui vont mettre en place les systèmes pour nous. Dès qu'il y a des grosses régies à mettre en place, ça demande de l'ingénierie. Et ces gens-là s'occupent de l'ingénierie dont on a besoin. Donc, c'est un BTS à 5 options. J'ai parlé du montage, oui. C'est un BTS à 5 options. Le premier BTS en France était le BTS de Bayonne, qui jouit d'une certaine reconnaissance parce qu'il ne forme au départ que des gens d'exploitation. Et au fur et à mesure, c'est monté différents lycées. C'est perçu aussi par les régions comme des établissements phares parce que... On va nous demander de faire des produits audiovisuels. Donc, et On a 13 établissements actuellement en France, 13 BTS audiovisuels. Ces 13 BTS audiovisuels sortent à peu près 100 en son, 100 étudiants, une centaine d'étudiants formés pour subvenir au marché de l'emploi qu'il y a derrière. Bien sûr, il y a d'autres, pour les autres options, pareil, voilà. Ça fait à peu près une centaine d'étudiants par option qui sort chaque année. Donc je disais qu'en fait, c'est bien, il faut bien comprendre l'utilisation du BTS audiovisuel comme c'est vraiment au service d'une réalisation, une réalisation audiovisuelle. Même si la formation qui est dispensée permet d'aller vers d'autres métiers, qu'il ne faut pas confondre les métiers et le statut. Hein, ça, c'est aussi dans la tête des étudiants un gros problème. Enfin, quelque chose de pas très clair. Il faut savoir aussi que le BTS audiovisuel est extrêmement demandé. Moi, je dois avoir à peu près 800 dossiers pour 12 places. C'est assez dur, voilà. Et que en aucun cas, nous formons des ingénieurs du son, musique. Et par contre, tous les étudiants, je crois, qui sont musiciens en âge de passer le bac, nous écrivent. Alors là, j'avais préparé un autre petit topo sur toutes les formations sur lesquelles qu'il peut y avoir en France. Je pourrais intervenir là-dessus. Voilà. Mais bon, je pense que le Lizard, enfin le lycée des magiciens d'Angoulême, c'est un des trois établissements les plus gros de France et c'est considéré comme celui qui est le mieux équipé. C'est assez lourd comme machine, hein, parce qu'il y a des renouvellements, des investissements. Autrement, vous avez, donc avec les cinq options, hein, je parle parce que les cinq options, ça fait quand même 120 étudiants. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, notre matériel tourne trois fois plus que celui de France 3 Limoges. Il y a dans les gros établissements, il y a donc... Paris à Boulogne et il y a Lille à Roubaix. Voilà, c'est les trois gros établissements.
Alors comment ça se passe? J'ai mon bac et je joue de la guitare. Je suis passionné par le son. Je fais partie des 800 dossiers. Comment ça se passe? Mon dossier est sélectionné. Il y a un examen. Je passe devant un jury. Comment ça se passe?
Alors. Déjà, il faut parler, quel type de bac sont actuellement visés par les métiers du son, principalement les bacs scientifiques et des bacs STI, option génie électronique. Pourquoi? Parce que notre métier est encore proche de l'informatique et de l'électronique. On a besoin de ces gens-là et des gens scientifiques parce que de toute façon, la matière sonore, quelle qu'elle soit, reste quand même un aspect excessivement scientifique, son approche en tout cas. Après, on va faire attention à des gens qui ont de l'expérience. C'est effectivement dire qu'à 18 ans, avoir de l'expérience, mais bon, on va tenir compte des étudiants qui ont fait des stages, qui se sont renseignés sur les métiers, qui ont été, parce que dans leur famille, il y a cette notion-là, enfin, ce contact-là. Ensuite, on va faire attention à la culture. Alors, bien sûr, vous avez tout de suite pensé à la culture musicale. Moi, dans le métier d'audiovisuel, c'est exclusivement une culture musicale dont j'ai besoin. Bien sûr, je vais apprécier un instrumentiste. Bien sûr, je vais apprécier qu'il sache déchiffrer une partition. Surtout, je vais apprécier qu'il ait du rythme. Parce que la conception de bande sonore, c'est quand il n'y a que de la voix, et ben il faut qu'il y ait un rythme, il y a des choses qui sont importantes. Mais aussi, je tiens compte de toute la culture audiovisuelle, c'est-à-dire qu'un étudiant sache me dire ce qui s'est passé au Festival de Cannes, ou qu'il écoute la radio. Voilà. Donc je fais aussi attention à ça. Et je ne vais pas me baser effectivement sur un dossier forcément de notes, je vais faire attention à cette motivation qui est généralement exprimée autour d'une lettre de motivation. Alors, depuis 2000, nous n'avons plus d'entretien. Ça a été... Ah ben voilà, c'est moi qui avais droit. Depuis 2000, nous n'avons plus l'entretien. C'est-à-dire que nous faisons des journées portes ouvertes. Nous faisons attention aux gens qui se déplacent à ces journées portes ouvertes. Les autres établissements de France, il y en a, je crois qu'on est les seuls à ne pas faire d'entretien. Pourquoi ? Bah, c'était une décision. Parce que c'est vrai que comme les élèves sont motivés ou les étudiants sont motivés, ils présentent des dossiers un peu partout et les parents se déplacent à droite et à gauche. Et donc, on a pris le pari de ne pas faire l'entretien. Voilà, ça marche aussi bien, en fait. Mais on prend quelques précautions en sachant qu'on va plutôt faire attention à des gens qui se sont déplacés aux portes ouvertes. Et puis, y a le bouche à oreille aussi qui fonctionne, il fait attention. Voilà.
Moi, j'essaye de comprendre la différence, parce que tu as parlé d'ingénieur, du son. Souvent, moi, j'ai remarqué qu'il y avait, je sais pas si ça vient de l'anglais, parce qu'on dit sound engineer. Et souvent, on traduit par ingénieur du son quelqu'un qu'on aurait tendance à plus placer comme technicien du son. Quelle est la différence entre les deux ? Est-ce qu'un ingénieur du son, c'est quelqu'un qui a un bac C ou un bac plus 5 et qui maîtrise les équations différentielles ? Ou est-ce que c'est un technicien du son qui a de l'expérience ?
Non, il n'y a aucune différence. En fait, le statut d'ingénieur du son dans ces métiers-là n'est pas reconnu, même s'il est pris au niveau de certaines formations, délivre un niveau d'ingénieur du son. En fait, c'est le métier qui fixe le titre. Pour le même travail, si vous travaillez en télévision, vous allez être dénoté comme, avoir une paye de technicien du son ou d'opérateur de prise de son. Et si vous faites le même travail en studio, vous allez tout de suite noter comme ingénieur du son. Donc et puis mon collègue qui fait le boulot d'ingénieur du son, va être noté comme régisseur.
Ouais, voilà. Mais tu as raison de signifier que il s'agit d'une espèce de déformation de l'anglais qui met sound engineer à tout bout de champ. Et effectivement, moi je me suis retrouvé aussi ingénieur du son sur des disques, parce que sur la pochette il y a marqué... ingénieur du son, Mick Martin, machin, truc, studio truc. Et s'ils auraient pu mettre technicien du son, c'est devenu. Il faut que ça soit ingénieur du son, c'est une espèce de. Ça flambe bien un peu. Mais effectivement, ça renvoie pas véritablement à une espèce de validation différente de celle du technicien. Simplement.
Surtout, on n'est pas dans un métier de production. En fait, on est réellement dans un métier de production, mais qui se défend comme un métier d'artisanat. Donc, souvent, moi, je ne fais pas attention si on met un générique comme un ingénieur ou technicien. Voilà.
Donc, on passe cette sélection. Le premier jour arrive, on rentre au LISA. Comment ça se passe ? Comment s'organise ? Alors, là, je vais parler du côté des profs et du groupe éducatif. Comment vous préparez ça ? Alors, tu me disais, si j'ai bien compris, que tous les 5 ans, vous avez un programme pédagogique qui est réfléchi en fonction des débouchés, des éventuels débouchés.
Alors là, j'ai amené en fait un document qui est le rapport d'activité professionnelle de France 2, France 3. C'est-à-dire qu'en fait... c'est les nomenclatures qui servent à définir les postes à France 2, France 3. Et donc, les évolutions des métiers font qu'il y a des évolutions sur les formations. Ces évolutions sur les formations vont aussi donner des évolutions sur les diplômes et sur les examens qui sont donnés à passer. Voilà. Donc, effectivement, on est amené à la fois par les évolutions technologiques et par les évolutions du métier, à enseigner de façon différente. Voilà. Par exemple, je donne un exemple. Voilà, autrefois, l'analogique était, on baignait dans l'analogique, était numérique, était enseigné en deuxième année. Maintenant, on commence par le numérique et si on a le temps et qu'ils apprécient l'analogique, on leur fait de l'analogique. Voilà.
Peut-être expliquer à tout le monde la différence entre l'analogique et le numérique. Enfin, ça va pour tout le monde ou...
Entre le son numérique et bon, type CD et puis les vinyles, voilà. Donc y a une différence sonore et avant on travaillait en analogique et on terminait par le numérique parce que c'était tout neuf et maintenant on baigne dans le numérique et quand on a des étudiants qui veulent aller plus loin, on leur réapprend ce que c'est que l'analogique.
Donc après sur l'aspect pédagogique, vous avez 12 étudiants Et comment ça se passe au niveau des répartitions, des cours je sais pas comment vous déterminez l'ajustement entre les cours théoriques, les cours pratiques, aller bosser sur le terrain, revenir, l'acquis d'expérience, les transferts de savoir, comme on dit en pédagogie. Comment ça s'organise tout ça sur une filière de type BTS?
Alors, tout à l'heure, quand on réfléchissait un petit peu philosophie du métier, enfin technique dans le métier, au service d'un réalisateur, il faut savoir que dans ces formations-là, techniciennes, on va d'abord apprendre son métier, et une fois qu'on sait son métier, on va travailler avec les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas une formation comme on peut avoir à la faculté, qui est une formation généraliste, et après on se spécialise. Là, d'entrée, on se spécialise dans sa fonction, c'est-à-dire qu'on apprend son instrument, et quand on sait jouer de la guitare, on va, ou quand on sait jouer du violon, on va jouer dans l'orchestre. Donc, la première année, justement, on apprend son instrument, voilà, le micro, la console, voilà, tout ce qui est savoir enregistrer proprement. Et en deuxième année, on tente à être déjà dans le monde professionnel sur des réalisations avec des réalisateurs extérieurs. Et donc, pour que tout ça s'harmonise, et il y a des enseignements de physique parce que le son ou tout l'ensemble de la lumière, tout ça, ça a quand même des grosses connotations physiques pour maîtriser les phénomènes. Ensuite, il y a du domaine littéraire artistique parce qu'on est dans de l'artistique. Et il faut apprendre, il faut se mettre au service de quelqu'un, il faut avoir un bagage culturel important. Après, il y a de l'économique juridique et juridique, donc parce que il faut. Je vais parler de statut. Hein. Souvent, c'est des postes, des métiers qui peuvent amener à un statut d'intermittent du spectacle. Donc, on est son propre patron. Il faut savoir faire sa gestion et connaître l'environnement juridique dans lequel on évolue, ce qui est très important. C'est-à-dire faire un devis et puis quand on fait des contrats, que ces contrats soient justes et particulièrement en son, parce que la gestion de la matière sonore et de la musique est quand même assujettie à quand même deux droits fondamentaux, donc droit patrimonial et droit moral, qui fait que derrière il y a de la SACEM à payer, de la SDRM, et donc il faut faire attention à tout ça. Mais surtout, il faut bien voir le côté juridique du côté intermittent du spectacle ou CDI, CDD. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui... Parce qu'on a souvent des étudiants qui deviennent leur propre employeur. Après, il y a de la technologie du matériel. Donc là, les étudiants apprennent en gros les concepts qui sont utilisés dans tous les matériels et les ingénieries qui sont utilisées dans les matériels qu'ils utilisent. On ne rentre pas dans l'électronique, on ne rentre pas dans le détail du matériel, c'est pas très important. Il faut savoir à quoi ça sert et dans quelles conditions. Et puis après, il y a de la mise en œuvre, c'est-à-dire se servir du matériel. Et après, il y a justement se mettre en groupe autour d'une caméra, d'un réalisateur, d'une prise de son et on y va. Voilà.
La durée, parce qu'on c'est sur 2 ans.
Alors c'est 2 ans. La durée, elle est fixée à 2 ans. Le temps dans le BTS est extrêmement important. Là, moi, je sais que mes étudiants là ce soir, ils ne sortiront pas avant 22 heures. Voilà, ils ont embauché ce matin à 7 heures. Certaines années, si je fais pas attention, il y en a qui dorment avec des duvets dans les régies. Tant qu'ils déclenchent pas les alarmes, c'est pas très grave. Voilà. Mais bon, après, ils ont 2 mois obligatoires de stage. Souvent, c'est beaucoup plus. Hein. Et puis derrière, ça marche bien.
C'est eux qui les trouvent, les stages?
Oui, on les impose. Non, non. On les fait chercher.
D'accord.
Ouais, parce que c'est eux qui sont. C'est eux qui vont être après leur propre chef d'entreprise, donc c'est des marchés pour trouver des stages. On en garde sous le coude, bien sûr, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui se font planter, hein. C'est le mot, hein, mais voilà.
D'accord. Est-ce qu'il y a un examen au bout des 2 ans pour la sortie royale ou c'est sur les notes? Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un système de notes ou pas? Comment ça se passe?
Alors, pour l'instant, il n'y a pas de contrôle continu sur ce BTS. Et bien sûr, pour des questions de coût, on va nous mettre du contrôle continu. Et le BTS en lui-même est la seule... Voilà, je pouvais vous parler de toutes les autres formations. Le BTS audiovisuel a une valeur très très importante dans le métier parce que c'est le seul qui est reconnu par les conventions collectives. Donc là je peux vous parler des DMA, de Louis Lumière ou ainsi de suite. Le seul qui est reconnu au niveau des conventions collectives, Radio France, dans les radios, dans les télés, c'est le BTS. Et je peux vous dire que à l'époque des VAE c'est très important parce que dans le planning de France 3, soit vous avez le BTS audiovisuel, soit vous pouvez justifier de 5000 heures d'intermittent du spectacle. Donc, en tant qu'opérateur de prise de son, ça veut dire 10 ans de carnet d'intermittent du spectacle. Alors, le BTS a sa valeur de ce côté-là. C'est pour ça que beaucoup de gens repassent le BTS derrière. Parce que bon, ils se disent plus tard peut-être qu'on va rentrer dans une télévision, on va rentrer dans une radio, on va rentrer dans un système, et le BTS est reconnu lui. Alors moi j'ai fait partie des gens qui se sont battus pour que le BTS soit reconnu dans les conventions collectives.
Juste, je te coupe parce que VAE c'est pareil, c'est peut-être oui. Que tout le monde ne sait pas ce que c'est comme dispositif.
Alors c'est les validations des acquis de l'expérience. Donc ça veut dire que par exemple des gens qui ont appris sur le tas ou des gens qui ont d'autres diplômes. Par exemple, moi, je fais passer des gens qui viennent passer le BTS en VAE, qui ont des maîtrises, hein, mais qui ont besoin du BTS pour avoir un statut clair. Voilà. Et puis, tu me prends mon truc à rebours. C'est-à-dire, j'avais les autres formations, c'est-à-dire que le fait, par exemple, d'avoir 800 dossiers pour 12 places fait que... Pourquoi on a ça? Parce que nos métiers sont des métiers paillettes qui attirent beaucoup les jeunes, voilà. Mais derrière, vous avez des gens qui en profitent, hein, il n'y a pas d'autre mot, j'appelle ça qui en profitent, parce que vous avez beaucoup d'écoles privées extrêmement chères qui bénéficient en fait de cette volonté des jeunes qui n'est pas souvent compris par les parents. Enfin bon, c'est assez dramatique pour moi parce que moi, en tant que professeur d'éducation nationale, je fais passer le LISA. Moi, j'ai fait passer 12 étudiants, mais j'en fais passer 70 qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est assez énorme en tant que planning au niveau des examens. Et sur ces 70, il y en a un qui va avoir le BTS. En gros, c'est à peu près c'est extrêmement faible, mais par contre ces gens ont payé pendant 3 ans des sommes qui vont entre 6000 et 8000 euros et donc ils ne se plaignent pas de la formation parce que ils peuvent pas dire à leurs parents qu'ils payent 6000 ou 8000 euros plus les frais de formation que la formation est pas bonne. Et quand à la fin ils passent l'examen, généralement c'est des gens que je trouve très bien, j'ai rien à leur reprocher, mais ils n'ont pas eu la formation. Moi, je ne vais pas dévaloriser mon diplôme parce que derrière, les gens de France 3, ils ne se posent pas de questions. Tu as le BTS, c'est que tu es capable de remplacer quelqu'un au pied levé chez nous. Et donc, on a des moments très dramatiques. Hein, et souvent, ça se termine par des pertes de confiance énormes pour ces gens-là qui, après, vont faire des courts-métrages dans de très mauvaises conditions. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le BTS audiovisuel, le nombre d'ouvertures du BTS audiovisuel représente aussi, à quelques pourcentages près, le besoin en audiovisuel. Mais comme le nombre de demandes est beaucoup plus important, ça génère un marché, voilà, qui est pris par les écoles privées. Voilà. Et j'ai pas d'école. Enfin, il y a 5 ans, j'aurais pu vous citer une école privée que j'aurais pu vous donner un exemple, mais là, j'en ai plus. Bah si, il y en a beaucoup, mais qui valent le coup, j'en connais pas. Voilà, parce que je fais passer...
Ça, eux, je sais pas.
Non.
Non, je sais pas, je pose la question.
Hein. Et toi, Mick, ta position par rapport à ça, parce que toi, tu vois, tu es au bout du parcours, donc tu croises des gens sur le terrain.
Oh, ils ont tous fait des stages. Tout ça. Il y en a quelques-uns qui ont un BTS, qui se présentent pour être qui sont en devenir d'avoir un statut d'intermittent. Non pas, c'est pas un métier, hein, c'est simplement un statut. Voilà. Il faut même le rappeler. C'est souvent une confusion, effectivement. Mais c'est souvent des... Ils ont fait des stages dans des boîtes de prestations. C'est souvent ça. Hein. Et ils viennent voir s'il y a du travail. Hein. Et voilà, non, mais autrement, non, je pense à SAE en particulier. Mais je ne sais pas ce que ça... J'en entends parler des fois.
Parce que moi, je regardais ce soir là sur le petit document qu'on nous a transmis, et c'est par rapport aux chiffres des actifs dans les... On reviendra sur les différents domaines d'activité, mais le chiffre des professionnels du spectacle vivant, qui sont estimés à 3000 professionnels, ce qui est quand même un chiffre modeste. Et en face, on a, en gros, la proportion, c'est 8 sur 10 qui travaillent dans le domaine. Alors là, c'est une question parce que ça me concerne aussi un petit peu en tant que... Enfin, travaillant dans un espace culture multimédia, audiovisuel et du multimédia. Alors, audiovisuel, on a bien vu que ça englobe le télévisuel, mais j'ai envie de poser...
La radio.
La radio, oui. Audiovisuel, radio. Mais quand on parle multimédia, c'est tous les nouveaux vecteurs de diffusion. Alors je pense au web TV, au web radio. On sait bien que là-dedans, l'économie n'est pas encore franchement au point, mais qu'il y a quand même de belles réussites. Voilà. Alors est-ce que ça, par exemple, c'est déjà intégré l'aspect du son par rapport à Internet? Et bon, pour optimiser face à cet appel de cette offre et ces propositions, est-ce qu'il y a de nouveaux territoires d'emploi qui peuvent émaner du numérique et du multimédia?
Alors, je voudrais refaire une définition des métiers du son d'abord. Hein. Donc, les métiers du son, ce sont les métiers qui sont liés à la création sonore, à l'enregistrement et à la diffusion du son. Or, ces métiers sont extrêmement perméables. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir, par exemple, des journalistes qui font du son. Voilà. Avec l'apparition des home studios, on a des musiciens qui sont passés dans les métiers du son. Et alors, avec justement l'avenir de l'informatique, on a aussi des informaticiens qui sont passés dans les métiers du son. Pour faire une première réponse, donc c'est vrai que par exemple, pour tout ce qui est du web, généralement, le son qu'il y a dessus, il n'y a pas forcément de création au départ, et ainsi de suite. Donc c'est une première chose. Bon, après, maintenant, les métiers se développent. C'est un secteur d'activité très important. Mais il y a tellement de multitudes de métiers dans le son que ça en fait partie. Je veux dire, c'est des gens qui sont capables d'enregistrer avec certains codecs et avec une certaine créativité sonore. Donc effectivement, ils font partie du métier du son. Est-ce qu'il y a eu des formations actuellement? Je sais qu'il y en a une qui s'est montée justement à Angoulême au niveau d'une licence où il y a une option création multimédia au niveau de, mais plus web, hein, avec une option son. Voilà. Mais à un moment donné, si on veut passer à quelque chose de supérieur, on va faire effectivement appel à un créateur sonore. Mais je peux pas le dissocier. Je peux pas le dissocier parce qu'il y a une telle multitude de métiers. Moi, je vais te donner un exemple. Il y a des étudiants qui ont trouvé du travail pour débuter où c'était simplement les standards téléphoniques. Appuyer sur la touche 1, appuyer sur la touche 2, c'est un métier du son. Quand vous avez des étudiants qui... vous savez que les musiques à la radio sont raccourcies à 2 minutes 50. C'est-à-dire que tout est recalibré à 2 minutes 50. Donc toute la journée, il raccourcissent de la musique à 2 minutes 50. C'est aussi un des métiers du son. C'est moins paillette, mais ça existe aussi. Donc je sais pas, j'ai pas répondu vraiment à ta question, mais je pense qu'il faut quand même voir qu'il y a une multitude de métiers. Ce dont tu dis, effectivement, c'est des métiers émergents où il y a une perméabilité par rapport à des gens de l'informatique. mais
je dis ça beaucoup. Parce que comme je défends moi la difficile cause du multimédia en disant que dans ces nouveaux métiers c'est l'espoir, hein, peut-être qu'on projette, parce que le premier problème c'est qu'il n'y a pas encore une économie, mais on voit bien que d'un point de vue télévisuel il y a une mutation qui se produit. Est-ce que la télé va aller sur internet ou, enfin, on sait pas trop, mais il y a vraiment des changements, et dans les spécialisations du numérique on voit de nouvelles formes de travail du son, par exemple la spatialisation, l'utilisation du mix sur les DVD, enfin des choses qui ne sont pas forcément liées à Internet, mais qui à un moment vont être aussi accessibles sur Internet avec l'arrivée du haut débit. Enfin, ça, c'est des perspectives dans les 5-10 ans à venir.
Donc, je peux donner un exemple. Vous avez une société qui fait des dessins animés à Angoulême. Donc, ils ont monté un studio son. Ce studio son... ils font tout l'habillage sonore, donc on leur livre les images, il n'y a pas de son, et il faut qu'à la fin, le dessin animé existe. Donc ils font 6 ou 7 mixages différents. Il y a toutes les versions internationales, donc c'est-à-dire sans les voix françaises. Il y a les mixages pour le multicanal, c'est-à-dire avec les sons à l'arrière. Il y a les mixages en stéréo. Il y a les mixages pour les diffusions sur des systèmes bas débit, type Internet. Donc ils sont... Nous, on va parler de codeurs et décodeurs différents, mais c'est vrai qu'on va adapter notre son, eux vont adapter leur son au type de diffusion. Hein. Je sais pas, quand vous parlez à quelqu'un au téléphone ou que vous parlez en direct, la formation du signal n'est pas la même, et c'est exactement la même chose. Voilà.
Je vais passer un peu à Mick. On va revenir dans le spectacle vivant pour voir un petit peu par rapport à toi. C'est quand même un métier où il faut se remettre en cause régulièrement. Déjà, il y a un travail parce que vous êtes quand même dans un flux, en l'occurrence un théâtre où il y a beaucoup de programmation.
Oui.
Comment ça s'organise tout ça?
Alors, moi, je dois préciser quand même que mon travail s'organise sur deux volets, on va dire. Un aspect plutôt administratif, au bureau, devant l'ordinateur, etc., où je vais m'occuper des... regarder les fiches techniques. Je vais être concret. Hein. J'étudie les fiches techniques de ce qui va être programmé dans les salles, puisqu'on travaille sur plusieurs salles. Ensuite, je dois m'occuper des plannings, de ce qui concerne le son. C'est-à-dire, je suis régisseur son, mais j'ai aussi quelqu'un qui travaille avec moi en alternance, qui est à l'école et en même temps... avec moi en mi-temps, et je dois donc moi valider des équipes d'intermittents qui vont travailler avec moi ou sans moi dans les différentes salles. Tout ça, ça monopolise pas mal de temps en fait de cette organisation là. Donc ça, c'est le volet plutôt administratif, hein. Sachant que aussi je précise que le travail de régisseur son se fait au sein d'une équipe qui est vraiment structurée, hiérarchisée, avec le directeur technique, les régisseurs généraux, deux régisseurs généraux, des régisseurs principaux, etc., dont je fais partie. Donc tout ça, ça se met en place. Et moi, donc, mon travail, c'est de bien trouver l'équipe qui va bien pour faire tel et tel type de spectacle. Des fois, on peut être 5 sur un spectacle juste pour le son. Donc je planifie les équipes d'intermittents en accord avec le directeur technique, on va dire. Et donc, l'autre volet, c'est le volet plus technique, plus logistique, à savoir, c'est le terrain. Je prépare, je mets en place le matériel avec les techniciens, la veille du spectacle. Souvent, on a quelques heures de montage, mettons 5 heures de montage. Ensuite, le jour du spectacle, on accueille les techniciens de la tournée ou du groupe qui va jouer, avec le montage, etc., démontage, et dans la même journée souvent. Donc ça fait des services de 12 heures, on va dire. Et ensuite, le lendemain, on remet un petit peu en état tout ce qu'on a cassé la veille, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect plutôt technique et logistique de l'affaire. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça mon travail.
C'est quoi les grandes difficultés, les problèmes qui peuvent se rencontrer? Alors j'imagine que c'est bien huilé, mais de temps en temps, il doit bien y avoir...
Le problème, alors, justement, dans l'aspect, le premier aspect, à savoir plus au bureau, il faut bien que j'anticipe toutes les fiches techniques qui se croisent souvent avec un concert, là une pièce de théâtre dans une autre salle en même temps. En même temps, un autre truc qui se monte, je sais pas, un artiste en résidence qui me demande 10 enceintes et 2 consoles numériques. Tout ça, il faut que je croise tout ça pour pouvoir un petit peu voir où on va avec le parc de matériel qu'on a à disposition. Et donc bien anticiper les locations, parce que souvent on a affaire à des prestataires qui viennent chez qui je dois louer du matériel, quoi. En gros, c'est ça. Et donc c'est à moi de veiller à tout ça, de que tout soit bien au bon moment lâché dans la salle au bon moment, puisque à chaque fois on installe, en fait, pour chaque spectacle, on installe un système différent, enfin un système, je veux dire, toute une chaîne électroacoustique différente, hein, du micro en passant par la console et jusqu'aux enceintes. C'est jamais la même chose, tout en étant un peu la même chose, mais c'est pas tout à fait non plus la même chose. Ce sont pas les mêmes demandes pour un spectacle de danse contemporaine, où on me demande 2 lecteurs CD autopose et puis un espèce de système vaguement 5.1, on va dire. Et puis pour un concert d'Arnaud ou de Bachung à venir, par exemple, ça n'a rien à voir, bien sûr. C'est pas, on ne met pas les mêmes forces en place. Donc c'est ça, donc à moi de faire attention à toutes les fiches techniques que je croise, et donc de bien réagir en disant attention, là il va falloir louer, parce que il n'y a plus rien pour faire ça, là j'ai pas ça. Donc ça fait l'objet d'un devis qui est fait auprès d'un loueur, d'un prestataire. Ce devis, il faut qu'il soit validé par l'administration, qui revient avec... il y a tout un chemin un petit peu à rebondissement comme ça, enfin en ping-pong comme ça, et jusqu'au jour du spectacle. Donc si vous voulez, c'est une espèce de compte à rebours toujours pour moi, parce que je tiens à le préciser que dans ma partie, on est vraiment en live, enfin, on va le dire en français, on est vraiment dans le spectacle vivant, c'est-à-dire que le spectacle est à 20h30, il n'est pas à 21h30. Il faut que ça joue tel jour. On ne peut pas dire oh, on s'excuse, on va reporter le spectacle, ça nous arrangerait bien. Hein, tout est programmé, bien sûr, et il y a cet aspect un petit peu stressant, on veut le dire. Dans mon travail.
Justement, parlons de ça. C'est quoi tes souvenirs de stress ? Qu'est-ce qui peut arriver qui fait que le spectacle commence à 21h30 ? Tu vois, si c'est arrivé.
C'est pas arrivé, mais ça a failli arriver. Par exemple, Arthur H, un chanteur français. Arthur H vient et les collègues des Lumières envoient de la fumée dans le théâtre l'après-midi pour tester la machine à fumer. Et ça fait mettre tout le système de le SSI en route. Donc ça veut dire que ça a coupé tout le secteur, et ça coupe aussi le secteur son. Et pour le réarmer, c'est pas évident. Il faut vraiment appeler machin, qui va appeler truc, qui va venir. Et on voyait leur tourner, et le secteur n'était pas remis. Et il a fallu quand même un petit peu faire attendre les gens qui étaient à la porte du théâtre. Voilà. Oh, il y en a d'autres.
Une autre question, c'est, tu parlais de 5 personnes sur le plateau. Oui. C'est quoi les corps de métier ?
Je parle de 5 personnes au son, par exemple. Sur un, ça, c'est une grosse équipe son pour un concert de showbiz. On appelle ça des concerts showbiz, où on fait, tu en parlais, je crois, que de l'accueil. C'est-à-dire qu'on reçoit des techniciens qui sont en tournée. Donc, j'ai eu leur fiche technique. Et quand ils arrivent, on est bien d'accord. Ils vont trouver la console qu'ils ont voulu, les enceintes, etc. Enfin, je ne vais pas faire le détail, c'est inutile. On s'est bien mis d'accord par mail, par téléphone. Voilà, il y a 5 personnes au son, c'est vraiment pas mal, quoi. Alors, ça veut dire que si on est 5 au son, on est au moins une équipe de 11-12. Ça veut dire entre ceux qui s'occupent des lumières, ceux qui s'occupent du plateau. Hein, ça fait une machine quand même, hein. Enfin, petite machine. Et surtout, tout ça est en espèce de temps hyper rétréci, quoi. Faut que ça, les musiciens, les techniciens arrivent le jour du concert, mettons en fin de matinée, ils font le tour de la salle, tout va bien, oui, ça, oui, ah, j'ai amené ça, il remet un rack en plus pour lui. Voilà.
on fait vraiment un petit peu dans le stress. Ensuite, il y a les musiciens qui arrivent. Alors, bon, à la salle, machin, truc. Ah, je suis déjà venu là, ou non, je connais pas. Ou, les balances, etc. Ça fait des longues journées de 12 heures normalement. 12 heures. 13 heures, 14 heures, mais enfin bon, c'est que 12 heures sur le relevé d'heures qu'on doit faire. Voilà. Mais il n'y a pas que ces jours-là, il y a des jours beaucoup plus paisibles où on regarde sa montre parce qu'on s'ennuie un peu, parce qu'il faut envoyer un CD toutes les 40 minutes sur un spectacle de danse ou une pièce de théâtre. Voilà. Et les équipes, donc, pour répondre à ta question, en fait, les équipes sont un petit peu, je veux dire, ça peut être une équipe, ça peut être deux, c'est déjà une équipe, hein. Un mec, quelqu'un aux lumières et quelqu'un au son, on va dire. Celui qui a la lumière, il fait un peu l'électro, le machino, il fait le plateau. Et puis celui qui est au son, en général, il fait que le son, et il a bien fait de choisir son. c'est ce qu'on leur dit en général. Ensuite, on peut être jusqu'à 15, ça dépend. Des fois, il y a des gros décors. Il y a beaucoup de machinaux quoi, qui viennent mettre en place les décors, etc. Mais ouais, ça arrive quand même 15. Ouais.
Et ce qu'on appelle les, d'un point de vue anglais, les roadies, les backliners.
Oui, voilà.
C'est quel type de.
Ça existe pas vraiment le gars qui est là pour que pousser le flight case ou se mettre en bas de l'échelle pendant que l'autre monte. C'est des machinaux, il y a des machinaux, donc c'est comme ça, les plus bas, on va dire dans l'échelle justement, mais non, ils sont, tout le monde a un petit peu une activité un petit peu autre, un petit peu plus excitante que de pousser un flight case qui roule mal ou qui roule bien.
Sur les pieds.
Oui, voilà. Non. Mais tout ça, alors, nous, on est une équipe de 12, je termine, une équipe de 12 techniciens permanents pour le théâtre. On n'est pas trop, 12 techniciens permanents, c'est correct. Par contre, on travaille avec une 70 intermittents à peu près, chacun avec, il y en a une dizaine au son à peu près. C'est ce qui est les gens que j'ai sur mon listing d'intermittents. Que j'appelle régulièrement, parce que bon, on se connaît bien maintenant, et même si ça tourne un petit peu, hein, ce sont toujours un petit peu les mêmes. Donc le reste, ce sont des machinaux électro qui travaillent pour la lumière ou pour le plateau. Voilà. Donc on est très peu au son, en fait. 10, c'est ça. Sur 70, ça fait je sais pas combien.
Il y a un petit point qu'on n'a pas abordé, mais peut-être, enfin, chacun d'ailleurs, sur l'enseignement et sur le live, vous pouvez répondre, c'est l'aspect sécurité. Alors je pense à deux points, c'est la sécurité plateau, je pense que ça doit être enseigné évidemment dans les filières. Et puis il y a les sécurités pour les... Parce que là, on entend parler ces derniers temps des risques liés à des pressions sonores trop fortes. C'est vrai qu'il y a eu pas mal au niveau du ministère de la Santé. Comment ça s'intègre ça et comment on gère ça en tout cas, je pense au spectacle vivant. Mais peut-être même sur l'utilisation des casques, puisque maintenant on s'est rendu compte qu'un des aspects qui était le plus nocif pour l'audition au niveau des risques auditifs, c'était l'usage des casques. Alors, c'est une question vraiment liée à la sécurité.
Ouais, je suis assez radical. Donc déjà pour rentrer dans ces formations-là, généralement on demande un audiogramme. Voilà. Ou même si on ne le demande pas, si l'audiogramme, on fait attention à celui qui passe l'audiogramme. Donc, l'audiogramme, c'est en fait donc une mesure de ce qui est capable de capter l'oreille, en fait, à la fois en fréquence et en niveau, pour des niveaux faibles. Alors, il faut faire attention à ça, parce que par exemple, je vous donne un exemple, vous avez un harpiste, s'il a joué de la harpe ou quelqu'un qui a joué de la flûte traversière, et ben il a une oreille abîmée, mais il a développé d'autres facteurs qui nous intéressent plus, qui sont au point de vue du ressenti du corps, voilà, qui vont nous intéresser tout autant. Quant à l'utilisation du Walkman et compagnie MP3, c'est radical. Voilà, c'est une paire de ciseaux direct au niveau des étudiants. Je rigole pas. Voilà. Pour deux raisons. D'une part parce que bon, les pressions sonores sont extrêmement élevées au niveau de l'oreille et donc détruisent l'oreille assez rapidement. On arrive à des niveaux de pression de 100 dB. Je peux vous dire 100 dB dans une salle, c'est déjà très très impressionnant. Il faut savoir qu'on ne capte pas le son que par nos oreilles. C'est un des facteurs qui arrive au nerf auditif. Et si on ne développe pas les autres facteurs, hein, quand vous entendez les graves, vous les entendez par toute la masse osseuse. Hein. Et donc le fait d'écouter de la musique par des Walkman empêche de développer les autres facteurs. Et c'est vrai, après, là, ça fait partie des générations. Peut-être que la génération d'avant moi écoutait beaucoup de vinyle avec des grosses enceintes. Maintenant, les étudiants écoutent sur des ordinateurs, avec des haut-parleurs gros comme ça, du MP3. Donc l'autre facteur, c'est le MP3 qui est à l'intérieur. Voilà. Il faut savoir que par exemple, le MP3, on ne peut pas danser dessus parce qu'il n'y a pas suffisamment les basses ne sont pas suffisamment définies. Et puis, c'est comme si les gens qu'on allait employer étaient nourris dans un restaurant. Hein, voilà, j'embauchais des cuisiniers qui auraient été nourris qu'avec du McDonald's. Voilà. Donc, j'espère... C'est radical. Non, mais... Je préfère l'être. J'ai donné une analogie des fois qui est au niveau du vin. Il y a une certaine énergie qui peut être prise dans les concerts, ainsi de suite. Mais si on est habitué à pas goûter les tanins différents, quel est notre métier ? Donc je fais très attention à ça. Effectivement, on prend des étudiants qui, par leur pratique musicale, ont des oreilles très abîmées, mais ils ont développé d'autres facteurs. Voilà. Alors, dans les risques, il faut savoir qu'actuellement, il y a tous les risques électriques qui sont assez pesants au niveau des formations. C'est un autre aspect des risques. Et puis, c'est un métier où quand même, on a des fous. Le cadreur qui veut prendre le plan comme ça, agrippé avec la caméra d'un côté à flanc de montagne, on faut savoir dans les équipes de Nicolas Hulot, il y a quand même eu un certain nombre de morts, quoi. Il faut pas l'oublier, quoi. C'est aussi un métier à risque. C'est un métier à risque pour plein de choses. C'est vrai qu'on peut être dans la fête, les autres font la fête, nous on travaille, on est aussi dans ces métiers de la fête, à déplacer des caisses, à porter des choses, le dos en prend un coup, voilà. Il y a une certaine fatigue qui existe. Et il faut se supporter des fois des temps de travail qui sont relativement importants. La fatigue auditive est extrêmement pesante, on ne s'en rend pas compte, mais elle est extrêmement pesante. Et puis après, il y a tous les risques du métier, acouphènes. Il y a très peu de temps, il y a un étudiant, il me dit la mixette ne marche pas, je mets le casque, à ce moment-là, je touche un bouton et là, je me suis pris plein pot, 1000 dans les oreilles. J'ai eu mal, voilà, effectivement. Donc, c'est des choses qui arrivent, quoi. Ça paraît pas très dangereux, mais. Moi, mon oreille, c'est ce que j'ai de plus important, c'est mon métier. Et donc, c'est ma passion et j'y fais très attention. Et par rapport à mes étudiants, j'essaie de leur expliquer ça. Et que notre métier il est lié à notre senti et à cette écoute. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Mais c'est quand même un élément très important.
Moi, j'insisterai sur pour ma part, sur l'aspect manutention qu'il faut oublier souvent. Je vois des stagiaires jeunes en général, ils font ouf quand on ouvre la porte du camion. Faudrait le décharger. Faudrait pas qu'on traîne. Il y a un aspect manutention. Non, mais ça va bien en général. Ils ont prends des chaussures de sécurité d'abord. On verra. Il y a l'aspect manutention et du travail en hauteur aussi. Il y en a qui n'aiment pas. Des fois, c'est un petit peu embêtant, mais bon, il y a des fous de l'accroche et tout. Il y a le travail en hauteur. Et puis, bon, moi, je dirais que la contrainte aussi, c'est par rapport à une espèce de vie familiale, si on veut en avoir une, c'est les week-ends, les jours fériés. Bon, on peut être amené à travailler quoi, le 1er mai, le 1er janvier, le... enfin, c'est mon cas.
Ça dépend des postes.
Ça dépend des postes.
Alors là, par rapport à ça, tu parlais des contraintes. Pour faire résonance, c'est le rap de France 2, France 3. Et en fait, quelles sont les compétences qu'ils demandent avant d'entrer. Après, ils les trient en fonction des types de postes. Hein. Donc, une bonne aptitude physique et un audiogramme correct. Ensuite, une bonne écoute critique, une bonne culture en musique, en acoustique architecturale et en acoustique physique. Une bonne connaissance des moyens professionnels de prise de vue, d'éclairage et de montage en adéquation avec la profession. C'est-à-dire qu'en fait, l'opérateur de son, l'ingénieur du son ne travaille pas, enfin, travaille dans une équipe. Ouais, et ça. Il faut absolument qu'en fait, qu'ils connaissent le matériel et le métier de l'autre. Des connaissances sur les différents systèmes professionnels d'archivage. Souvent, on est confronté à l'archivage. Donc ça, c'est une partie joyeuse, mais... donc, c'est que les connaissances des matériels et appareils professionnels de maintenance et de mesures adaptées, la maîtrise des appareils professionnels impliqués, un bon niveau de connaissance des systèmes professionnels de multidiffusion, donc on parlait tout à l'heure, donc dès qu'il y a des enceintes à mettre, un niveau de formation à la prévention des risques électriques, une bonne connaissance des signaux et des normes, donc de base, hein, on appelle ça, une bonne connaissance des contraintes liées aux vecteurs de diffusion, la bande passante, les débits, les codecs, donc là, ça revient sur l'informatique. Au sein d'une équipe, une capacité d'analyse, d'écoute, de dialogue et de maîtrise de soi. Et dernier, une maîtrise de l'anglais.
Oui, c'est vrai. Souvent sur le plateau, ça parle en anglais parce qu'on n'accueille pas que des Français, bien sûr. Et souvent, c'est la langue dont, si on accueille des danseurs suédois, ils vont nous parler les techniciens vont nous parler en anglais parce qu'ils parlent pas, eux ne parlent pas français. Et donc, on parle un espèce d'anglais technique. Hein. Il n'y a pas non plus, il ne faut pas parler le Shakespeare couramment. Quoi. C'est sûr que c'est relativement simple, mais il faut quand même un petit peu manier pour être un petit peu, se sentir à l'aise avec l'équipe. On a envie de les accueillir bien, enfin, je ne sais pas, bref. Donc, il y a l'anglais, ouais, c'est important.
On va continuer sur les formations. On va parler maintenant des voies royales, les formations supérieures. Donc, on a son BTS. On passe à 10 ans d'expérience. Et alors, les voies royales, est-ce qu'il y a des limites d'âge sur les grandes écoles Je ne sais pas si on appelle toujours la FEMIS. Là, je vois que c'est apparemment...
Oui, enfin bon, on va toujours appeler ça la FEMIS.
Oh, d'accord.
En fait, je vais faire vite fait un topo. Donc, pour les formations, d'abord, il faut savoir qu'on a quand même quelques catégories de métiers bien précises. C'est-à-dire, d'abord, il y a la musique, c'est-à-dire les métiers de l'enregistrement autour de la diffusion de la musique. Je ne parle pas du spectacle, hein, je veux dire vraiment le métier du disque, hein, autour du métier du disque. Ensuite, on a l'enregistrement et spectacle vivant, donc il fait partie. Voilà. Le cinéma et l'audiovisuel. Alors, ce qu'on entend dans l'audiovisuel, c'est tout ce qui est diffusé, hein, c'est-à-dire la télévision, la radio. Et après, vous avez l'acoustique, dont on a oublié de parler, mais c'est quand même très important, ça fait quand même partie des métiers du son, c'est moins paillettes, mais c'est tout aussi important. Par exemple, tout ce qui est au niveau de l'acoustique environnementale actuellement, c'est très très important.
Le théâtre de Poitiers, je sais que par exemple à l'auditorium, ils ont fait appel à un acousticien de renommée internationale, et Cummins, ouais. Et donc ça a été un travail, enfin, nous on a eu l'occasion de voir les plans, c'est quand même extrêmement poussé quoi, sur le choix des matériaux, donc il y a quand même quelques débouchés non négligeables. Alors je sais pas, dans l'architecture aussi, c'est les acousticiens sont...
Dans l'architecture, mais moi je suis simplement dans les trucs très proches, hein, je veux dire dans l'audiovisuel. Moi j'ai un ami là, qui habite à Bordeaux, je fais souvent appel à lui. Voilà, il a été embauché pour faire l'acoustique des studios qui ont servi pour le loft. Il a été excessivement bien payé, d'accord, c'était à peu près 6000 euros son mois, plus tous les frais, voilà, donc c'est par rapport à un travail d'ingénieur du son, c'est pas mal, je veux dire, il n'a pas les mêmes contraintes, hein, payé pendant tout le loft, voilà, juste pour résoudre s'il y avait quelque chose qui résonnait ou pas, c'est quand même des métiers aussi intéressants. Bon, attention, hein, c'est pas toute l'acoustique, hein, c'est dans notre métier, après il y a tous les problèmes de prise d'acoustique. Alors, je reviens aux formations. Donc il y a les BTS qui sont actuellement la voie niveau bac plus sortie du bac, qui est la voie de départ et est quand même reconnue comme la voie royale au niveau de l'audiovisuel. Ensuite, il y a les DMA. Donc là, j'ai fait, moi aussi, je travaille au niveau des rédactions, des référentiels. Donc c'est les diplômes de métiers d'art. Et il y a un diplôme de métiers d'art qui est spécialisé dans donc la régie du spectacle vivant. Donc métier du son comme DMA. Ensuite, il y a toutes les formations universitaires. Donc les formations universitaires, on va les regrouper en quatre pôles. Il y a Lille, il y a Brest, il y a à côté de Marseille, j'ai oublié le nom, Aubagne, et il y a Toulouse. Voilà, les quatre grands pôles qui vont de la licence jusque maintenant à des formations d'ingénieurs ou à des formations de recherche, d'accord. Donc là, principalement, je parle des métiers de l'audiovisuel. Après, vous avez des formations en acoustique. Elles sont à peu près réparties sur toute la France. Hein. Vous avez une licence acoustique, par exemple, à Angoulême. Licence professionnelle d'acoustique. Donc, ce sont des gens qui sont aptes à faire de bonnes prises de son acoustique. Enfin, pas des mesures acoustiques correctes et qui sont capables de faire des évaluations. Enfin, des préconisations. Par contre, vous avez aussi à Poitiers une école d'ingénieurs en acoustique. Hein, donc, c'est... Après, vous avez les grandes écoles. Alors, pour accéder aux grandes écoles, BTS ou... nous, non. On ne prépare pas. On lisait, on ne le prépare pas. Mais par exemple, vous avez Toulouse qui le BTS de Toulouse qui prépare aux grandes écoles. Ou vous avez des formations type Guisto à Nantes qui préparent à ces grandes écoles. Ces grandes écoles, il y en a quatre. Donc il y a la FEMIS, Louis Lumière, le CNSM et puis l'ENSAT. Donc CNSM, donc c'est je crois que c'est 12 étudiants pour l'ingénieur du son musique. L'ENSAT, c'est 12 étudiants pour la régie son. Louis Lumière, c'est 12 et la FEMIS, ça doit être 4. En sachant que Louis Lumière et la FEMIS sont spécialisés cinéma, alors que les BTS audiovisuels sont justement spécialisés audiovisuel.
Alors il y a une particularité à la FEMIS, parce que je connais des gens qui ont fait ce cursus, c'est que les gens sont pris principalement sur leur culture générale. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui aurait un cursus littéraire ou de philosophie ou de sociologie a autant de chances de pouvoir rentrer à la FEMIS. Évidemment, hein, le concours d'entrée est quand même assez pointu, mais c'est pas une rentrée par l'aspect scientifique. C'est vraiment, là, ça se joue sur la culture générale. Sur la FEMIS. Hein. Sur la FEMIS. C'est peut-être la particularité, le choix qui a été généré dès le départ pour travailler, enfin en tout cas dans la réalisation cinéma.
Donc, ce qu'il faut aussi, par rapport à toutes ces formations, c'est qu'il faut bien penser que, au niveau musical, je dirais enregistrement de disques, des ingénieurs du son qui en vivent, il y en a peut-être 50 en France. Et tous ceux que je vois rentrer au BTS, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Premier, on veut faire du studio enregistrement musique. Alors, on va commencer à leur expliquer qu'il y a quand même d'autres... d'autres choses intéressantes, voilà. Mais sur la place de Paris, j'ai trois anciens qui vivent, qui font partie de ces 50. Mais faut pas oublier que la production musicale avec des ingénieurs du son qui en vivent correctement, c'est pas énorme. C'est souvent des gens qui vont vivre dans des studios avec. Ils vont vivre dans le matelas, sur le matelas qui est posé dans un coin du studio pendant des années en attendant que l'ingénieur du son soit malade pour pouvoir le remplacer. Voilà. Donc il faut pas voir aussi, faut bien voir aussi ces aspects entre des fois la volonté des étudiants et la réalité du marché du travail. Et souvent les entreprises de formation type SAE, voilà, SRA et compagnie vivent sur ce marché-là. D'accord. Et ce qui pose ce que je disais après, les quatre consciences.
en entonnoir. C'est...
Voilà. Moi, j'ai une question à poser. C'est, on entend souvent parler des producteurs. Alors, je crois qu'il y a souvent aussi l'aspect économique de la mise en place d'un projet discographique. Et en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons, on a le producteur artistique, c'est-à-dire celui qui est derrière l'ingénieur du son et qui donne la tonalité, qui donne... Est-ce qu'il y a des écoles pour ça ou est-ce que c'est des gens qui sont des... qui ont fait le parcours de technicien, ingénieur du son, ou est-ce que là-dedans, il y a des autodidactes? Enfin, je ne sais pas quand. Par exemple, en France, on parle de labels qui ont fait la French Touch, qui ont permis d'exporter les productions françaises même sur le marché américain. Comment ça s'est passé? Enfin, est-ce que c'est des gens qui sont autodidactes, diplômés? Moi, j'ai souvent entendu que c'était des gens qui étaient sur un entre-deux et qui avaient un talent par rapport au son. Mais c'est, ça paraît un peu délicat, quoi. Enfin, est-ce qu'il y a des filières professionnelles pour la production artistique?
Non.
Non, non. C'est ce que tu viens de dire, c'est ça. C'est les producteurs, quoi, à l'américaine, enfin à l'anglaise, ou, qui sont des musiciens et en même temps techniciens, ils font un petit peu tout. Puis ils ont ce talent de donner une couleur à tel ou tel groupe ou chanteur ou chanteuse. C'est surtout dans la variété qu'on trouve ça. Hein. Et puis ça fait on les appelle pour produire. On va dans leur studio favori pour avoir la même couleur qu'eux. Ils deviennent référents, etc. Mais je pense que c'est des gens en général qui sont eux-mêmes musiciens et techniciens aussi. Ce que tu disais, ils combinent ça et ils ont surtout un talent pour trouver des choses. Voilà.
Moi, je vais faire une autre réponse qui est celle au niveau du cinéma. La production télévisuelle, on voit apparaître, on l'a vu depuis des années dans les bandes, dans les génériques américains et des blockbusters américains, en fait apparaître deux postes, celui du designer sonore et celui du superviseur sonore. Donc, alors, le superviseur sonore, c'est l'administratif de la bande son du film, c'est celui qui a la responsabilité de la bonne fin de la bande son. Alors que le designer sonore, c'est celui qui aide le réalisateur à créer la bande-son du film et qui est propriétaire de la bande-son.
D'accord.
Donc, c'est des métiers actuellement, il n'y a qu'un seul réalisateur français qui le fait, c'est Besson. Donc, vous voyez, ça donne tout de suite une autre image. Le son est quand même différent. Hein. Après, je ne parle pas de ce qu'il y a dans le film, hein, je parle de la bande-son. Et voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question au niveau de la notion de producteur. Actuellement, même dans le cinéma, où la France peut être avoir un certain rôle à jouer, on n'a pas de formation et on n'a pas ces compétences-là.
Et peut-être avant de passer aux questions, est-ce que ce n'est pas une problématique qui est liée aussi sur la problématique des droits d'auteur, c'est-à-dire la différence entre le copyright anglo-saxon et nous qui travaillons encore sur la notion du droit d'auteur, enfin les lois de 57, on ne va pas rentrer dans ce débat parce que c'est déjà un autre débat, mais est-ce que ça, l'aspect juridique n'a pas une incidence sur le développement des projets artistiques ou plus économiques?
Bien sûr, hein, de toute façon, tout développement artistique, je ne vais pas te le faire, hein, a des contraintes économiques. Bon, la grosse différence, c'est en France... En gros, l'artiste reste propriétaire d'une certaine partie de ses droits de sa production artistique, alors que dans le droit américain, en fait, il reçoit un salaire par rapport à sa production. On peut schématiser comme ça. Ce qui donne, en fait, vraiment une approche à la fois différente, une production sonore qui est différente, et aussi des gestions des droits, parce que bon, on est sur en France, on est sur la SACEM, la SDRM. Moi, je viens du Vietnam, par exemple. Les droits, on n'a rien à faire. Voilà, ils ont pourtant signé des conventions, mais et pourtant la production cinématographique dans ces pays-là, elle est quand même beaucoup plus importante que celle qu'on a en France. Enfin, parle le Vietnam lui-même, mais l'Asie du Sud-Est. Donc, il y a des choses qui existent. Bon, pour tout le monde sait, par exemple, que les droits des Beatles, c'est Michael Jackson qui les a achetés. Donc,
En fait, en France, on conserve ce qu'on appelle le droit moral. C'est-à-dire que si je fais une musique, je peux attenter à un procès, même si j'ai vendu ma musique, je peux attenter à un procès à un producteur qui utiliserait ma musique dans un cadre qui ne me le plairait pas. C'est-à-dire que j'ai vendu ma musique pour faire tel film, et en fait il la colle sur un autre qui ne me convient pas, je peux quand même avoir un droit de regard par rapport à l'utilisation de la musique. Au droit américain, on ne peut pas. Donc ça génère d'autres comportements.
Je sais pas, je vois le retourner. On va passer aux questions. Je ne sais pas si les explications ont été suffisamment claires ou si vous avez besoin d'un éclairage complémentaire sur... ces filières et ces formations liées au métier du son. Est-ce qu'il y en
a... Oui.
Non ?
Le DMA, c'est quoi exactement ?
Alors, il y a un DMA à Nantes et il y en a un à Lyon. C'est des diplômes de métiers d'art, d'accord, qui sont spécialisés justement dans la régie, comme on disait, enfin de théâtre, autour du spectacle vivant.
Ça se fait
au niveau bac. À la base, ça se fait au niveau bac, mais c'est toujours pareil, il y a tellement de demandes que ça peut être à niveau supérieur. Nous, par exemple, au niveau du BTS, on a des demandes de tout niveau, mais bon, on essaye de garder à peu près 70% de bacheliers. Mais bon, j'ai des demandes de gens qui ont des licences, des maîtrises, équivalents, hein, voilà.
Lié, comme tu en parlais, au développement des validations des acquis d'expérience, non ?
Les développements des validations d'acquis d'expérience, c'est bien après. C'est des gens qui ont déjà 10 ou 20 ans de métier.
Justement, est-ce que ces gens-là, pour faire valider et compléter leur expérience professionnelle, ils se dirigent pas vers des demandes de PTS ? Parce que des gens qui ont appris sur le terrain et qui n'ont pas de diplôme reconnu, est-ce que c'est un phénomène qui se passe chez vous ou pas, je ne sais pas.
Ouais.
Est-ce que c'est une incidence, quoi, en tout cas, sur les demandes des gens qui veulent rentrer dans la PTS.
Les gens qui demandent... alors, on ne s'est pas compris, on n'a peut-être pas fait la... Une VAE, c'est on passe devant un jury. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de suivre l'enseignement. On n'a pas l'enseignement à suivre. Donc moi, ce que je parle, c'est... Tout le BTS, il y a ce qu'on appelle la formation initiale. Il y a la formation continue et la VAE. Alors, la formation initiale, bon, c'est des gens qui viennent, qui sortent soit du bac, soit qui sont à tel niveau de DUT ou tel niveau de fac, ou qui sortent de classe prépa. Ça, c'est pour rentrer directement sur le BTS. Après, il y a deux BTS en France qui sont des BTS Greta, qui sont faits pour des gens en alternance ou des gens en formation continue. Alors, l'alternance pose problème parce que souvent des employeurs qui sont des employeurs type des gens de la sonorisation n'ont pas intérêt à ce que le jeune ait le diplôme. D'accord. Parce qu'il leur coûtera plus cher après. Donc il faut faire très attention à ça. Et puis après, il y a les VAE. Donc une VAE, ça se passe en gros en deux temps. Il y a le candidat doit produire un dossier et ce dossier doit expliquer les activités qu'il a fait et les compétences qui correspondent à celles du BTS ou tout autre diplôme d'ailleurs. Et donc après, il y a un jury qui se réunit et on valide ou pas le BTS. Donc en gros, ça se joue un jury en 20 minutes. Voilà. Généralement, S'il a su faire un dossier et qu'il a pu montrer ses compétences, généralement on le donne. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire un étudiant de BTS 10 ans après ?
D'autres questions ? Allez-y.
Moi j'ai pas le bac et donc je suis en projet en ce moment avec la mission locale pour une formation qui est assistant technicien son. Je ne sais pas si vous avez des infos justement sur.
Sur assistant, dans quel cas ? Oui, qui a été mise en place par la région.
Ouais. Okay. Il n'y a pas trop longtemps, justement, je crois que c'est fait.
En fait, on m'avait contacté pour cette formation, alors je vais répondre. Hein. Effectivement, il y a
au niveau, s'ils ont mis en place cette offre, c'est qu'il y avait des postes disponibles au niveau de la région, dans le cadre de petites salles ou dans le cadre de plus grandes salles où il y a besoin de ce type de poste d'assistant. Moi, mon opinion personnelle, c'était que cette formation ne devait pas être une formation technique, mais devait être une formation qui permette d'acquérir des connaissances générales pour rentrer sur un BTS. Parce que vous vous retrouvez aussi en concurrence avec des gens de BTS et des gens de DMA. Voilà. Et si la mission locale était peut-être de former ces gens, c'était aussi de vous donner les connaissances culturelles nécessaires pour rentrer en BTS. Parce que bon, quelqu'un qui aurait suivi ce cursus-là et qui aurait fait l'effort d'acquérir des connaissances générales en physique, en cinéma, enfin voilà, on n'aurait aucune raison de le refuser parce qu'il aurait montré sa motivation. Voilà. Donc moi, je vous conseille de faire en sorte de profiter de cette formation pour décrocher une entrée en BTS. Voilà. Parce que derrière, vous obtiendrez, vous aurez montré votre formation, votre motivation, et vous aurez une formation qui sera reconnue. Alors reconnue dans le cadre du métier, dans les premières années, tout le monde s'en fout. Hein. Mais, oui. Mais bon, quand vous aurez envie d'arrêter de pousser des caisses ou d'aller à droite à gauche, vous serez bien content de justifier d'un bac plus 2 ou d'un bac plus 3 par rapport à un salaire. Voilà. Faut pas le dire.
C'est le facteur de motivation aussi qui est.
Ouais.
Des exceptions qui confirment la règle. Ça m'arrive de prendre des étudiants de bac professionnel. Ça m'est arrivé de prendre aussi des gens qui avaient un bac SES, qui a été pendant très longtemps le premier assistant, le responsable du studio plus 30. Quoi. C'est pas
n'importe qui.
C'était pas n'importe qui. Mais après, c'est une affaire de motivation, puis de volonté. Hein. Un étudiant dont je vous parlais, il était. Le temps qu'il était au BTS, le peu d'argent qu'il gagnait à l'époque, c'était pour acheter les documentations des grosses consoles. Parce qu'il vient de dire, le jour où je serai devant ces grosses consoles, je saurai m'en servir. Donc, et c'était un excellent musicien. Donc, ça vaut de l'or par rapport au niveau scolaire pour moi.
C'est comme souvent, la motivation est quand même un élément essentiel pour.
Ça transparaît forcément.
Oui, on conseille à tout le monde d'y aller avec la NIAC, parce que c'est vrai qu'on. 800 pour 12 entrées.
Je sens. J'ai des stagiaires, je sens bien la motivation, plus ou moins. Mais en général, ils sont quand même motivés parce qu'ils sont justement dans un milieu qui pour eux, ils ont envie d'y aller. Quoi. Donc, ils ne viennent pas là parce que c'est les parents, c'est pas comme la leçon de piano obligatoire quand même. Hein. Là, ils viennent en stage parce que vraiment, ils ont envie de faire du son et de se retrouver derrière la console pour faire court.
Il y a des fois, il y a d'autres choses qui se mettent en jeu. Hein. Ils sont tellement contents d'arriver dans ces formations qu'ils font bien la fête. Et qu'ils se retrouvent pour une fois, pour certains, c'est la première fois qu'ils sont en dehors de chez les parents. Donc
c'est vrai aussi.
Ils découvrent d'autres choses.
Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, allez-y.
Moi, je voulais savoir s'il y a d'autres formations, plus pour spectacle vivant, à part les DMA, et pour aussi voir avec la lumière et le son, parce que si on n'est pas encore sûr,
Moi, je ne sais pas quel est le comment faire, mais je vois souvent, je reçois des stagiaires qui sont là pour découvrir le plateau, c'est-à-dire avec le. La lumière, le son, et puis au bout de quelques temps, ils se font une espèce d'opinion comme ça. Ils disent, tiens, ça m'intéresse plus. Enfin, je sais pas. Ils savent pas trop où ils veulent aller, mais on les reçoit, oui, et puis je crois qu'ils se décident, oui.
Je crois que je vais répondre à la question aussi. Oui. Je crois que, en fait, plus la machine est grosse, plus on a besoin de gens spécialisés.
Voilà.
Et donc, à un moment donné, il faut. Voilà, plus l'orchestre est gros, plus les gens dans chaque instrument est spécialisé et joue une partition. Donc, en fait, ça le problème. C'est qu'il faut faire des stages pour sentir ce que l'on veut, quoi. Et où est son intérêt. Et après, nous, on sera là pour aider, pour ramener tous les contenus, toute la formation. Mais je crois que dans une petite salle, effectivement, les gens s'occuperont à la fois du son et de la lumière. Mmh. Mais c'est un autre choix.
Il y a des BTS lumière
? Non, le BTS, c'est un BTS audiovisuel. Ouais. Parce que jusqu'à présent, dans le spectacle vivant, ça a été surtout une formation par le tas. Et la spécialisation de certains postes fait que les gens qui ont par exemple fait un BTS audiovisuel de cadre font de la lumière. Et après peut-être 10 ans, ils se sont spécialisés dans la lumière du spectacle vivant. Mais il faut quand même savoir, enfin je reviens dans le... aussi, ces formations sont jeunes. Ça fait. Moi, mes plus étudiants, il y a 20 ans qu'on les a sortis, les étudiants de BTS. Donc. C'était la première formation mise en place, hein, parce qu'il y avait un besoin de la télévision qui était complètement différent. Après, les formations au niveau du spectacle vivant, le DMA, le premier DMA doit être sorti en 99, donc c'est pas vieux comme formation. Hein. Mais le DMA, c'est que deux formations en France. Le BTS, c'est 13, le DMA, c'est deux en France. Parce que il n'y a pas besoin de plus non plus. Hein. C'est le marché de l'emploi est aussi restreint. Alors effectivement, là, quand on disait tout à l'heure, ça représente à peu près 3000 personnes. Je ne suis pas forcément d'accord avec ces chiffres-là. Voilà. Je pense que de toute façon, c'est des métiers saisonniers aussi. Hein. C'est-à-dire que l'été, il y a beaucoup plus de spectacles vivants parce qu'il y a beaucoup plus de festivals et ainsi de suite, et qu'à chaque fois on va avoir besoin au moins d'un sonorisateur et quelqu'un pour faire de l'éclairage, qu'il y en a qui vont vivre de festivals l'été, et puis il y a d'autres qui vont vivre toute l'année comme Mick sur une salle. Et puis il y a d'autres postes. J'ai des étudiants, ils partent 3 ans dans les métiers de l'hôtellerie, parce qu'ils vont faire du son et des lumières dans les discothèques, ou alors ils vont
au Club Med,
voilà,
sur des bateaux de croisière.
Ouais, sur des bateaux de croisière, ouais, ils ont des trucs de ça. Après, quand ils reviendront, ils iront bosser à la télé pour refaire un peu le plein, et puis ils vont faire tourner un groupe pour se faire plaisir, et puis voilà.
Mais ça, c'est un petit peu la filière. Ça serait un autre sujet, une autre rencontre. Il y a beaucoup de débouchés dans la lumière. Nous, on travaille. Enfin, il y a une mutation aussi. Avant, il y avait les consoles d'éclairage. Maintenant, je vois de plus en plus de responsables de la lumière en live qui utilisent un ordinateur portable et ont tous leurs plans de feu. Donc ça, c'est un peu une opportunité pour ceux qui ont envie d'intégrer. Et il y a aussi un métier où les gens qui ont une excellence artistique et plastique trouvent vraiment des débouchés. C'est les bons opérateurs pour le cinéma, pour la télé. C'est vrai que quelqu'un qui fait la lumière sur le plateau, s'il a vraiment, il commence à se faire un nom, il a du boulot. C'est quand même des gens assez courus dans ce métier.
Actuellement, un des postes les plus rémunérés dans l'audiovisuel, c'est le poste à la colorimétrie, c'est-à-dire donner une couleur globale à un film. Par exemple, tout le monde a vu par exemple Amélie Poulain qui avait cette espèce de jaune-vert tout le long du film. Bah, c'est ces gens-là qui ont fait que le film était jaune-vert. C'est eux qui ont gagné le plus d'argent peut-être dans le film, enfin en tant que technicien, dans un poste technique.
C'est clair par rapport à ce que disait Mick en rigolant tout à l'heure par rapport au son et à la lumière. Parfois, il vaut mieux être au son qu'à la lumière, enfin quand c'est brassé, parce que les systèmes son sont quand même, de lumière sont assez impressionnants. Quand on voit les grosses tournées, c'est impressionnant. Ouais. Par contre, ce qui est passionnant, c'est les gens qui font la conception des lumières, qui ne suivent pas forcément une tournée, mais qui sont généralement payés plutôt grassement, parce qu'ils font une conception sur ordinateur des plans de feu. et non pas après à brasser les centaines de flycases pour installer et ranger. Donc c'est vrai que c'est peut-être une étape de brasser le matériel, mais aussi la conception, l'aspect conception au niveau des lumières est un aspect intéressant. Mais alors après, l'aspect conception, ça implique des qualités de connaissance, d'histoire de l'art, et puis quelques référents.
Culture. Il y a aussi dans le son, est apparu le technicien, on l'appelle... le gars qui va caler le système. Et donc, avec son ordinateur, etc., puis un logiciel dédié, il vient caler véritablement l'installation... Vous savez, les bananes là, qui pendent de chaque côté, tout ça, les line array. Voilà, ça, c'est un métier qui est apparu en même temps que la technologie du line array. Et donc, il y a souvent le type qui vient, qui connaît par cœur son système, qui a fait une prédiction, etc., et qui vient dire, là, il faudra mettre ça à 2 degrés. Là, et il a raison, en général. Hein, c'est pas n'importe quoi. Et ça, c'est un nouveau métier, une spécialisation du technicien son.
Dans l'audiovisuel, on peut en sortir aussi des nouveaux métiers. C'est assez fou parce que je trouve qu'avec toutes les nouvelles technologies, par exemple les étudiants qui font, enfin qui sont embauchés dans le système pour faire les sons pour les portables, et c'est des gens qui gagnent très très bien leur vie. Moi, par exemple, pour vous donner un que je connais qui gagne très bien sa vie, c'est des étudiants qui sont sortis directement de BTS, ils ont été embauchés. Donc au studio de Joinville, donc ils sont assistants sur les films. Bon ils s'occupent que de surveiller si les machines tournent. Et là un film ça se met trois mois pour mixer un film par exemple. Bah, ils sont trois mois à suivre le film et ils assurent que tout soit prêt quand l'ingénieur vient. Sauf qu'ils sont embauchés à 35 heures et quand ils ont fini leurs trois mois, ils ont 9 mois de vacances. C'est des métiers différents et là, il fait une partie technique qui n'est pas reluisante. Mais bon, ça leur permet de gagner de l'argent et de vivre ailleurs, quoi. Dans un instant, autour d'un groupe, sa passion, d'aller jouer à la guitare. Je sais rien.
Il y a, dans les nouveaux métiers, une filière, l'IRCAM, qui est située à Beaubourg, qui est un institut de recherche musicale assez pointu hein, sur les musiques électroacoustiques. Hein, donc c'est assez particulier. Ils ont créé, il y a 3 ans, une filière qui est liée au design sonore pour les véhicules mobiles. C'est-à-dire ils étudient l'acoustique pour les voitures et apparemment c'est plutôt prisé. C'est-à-dire trouver le son idéal à l'intérieur d'une voiture en fonction des matériaux, des formes, enfin tout ce qui est lié à l'acoustique architecturale, mais appliqué à l'habitacle d'une voiture.
Ouais, il y a peu de temps, là, on m'a fait la demande pour travailler sur un bâtiment et faire des zones... en passif ou en actif, c'est-à-dire avec ou sans enceinte, de telle façon à ce que la sensation sonore soit vécue différemment quand comment on se déplace dans le bâtiment. Voilà, il y a plein de... Que là, on peut voir le bâtiment par une peinture ou une architecture, mais on peut le voir par la réflexion sonore qu'il envoie. Il y a plein de choses.
D'autres questions ? On va arrêter là. En tout cas, je vous remercie d'être venus. J'espère que... Moi, je remercie aussi Mick et François pour ces éclairages. J'espère que ça vous servira pour ceux qui vont partir dans ces filières et ce travail autour du son. Si vous avez besoin d'enseignement, n'hésitez pas. Je pense que c'est important de faire le bon choix quand on part dans ces filières. Et puis, motivation, n'oubliez pas. Merci, bonne soirée. Merci.